Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur notre site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Gaëtan Doremus. Bonjour.
Bonjour.
Gaëtan Doremus, vous êtes Diwa à peu près assez récemment. J'ai découvert comme ça, sur un réseau, un site de réseaux sociaux, votre nom et puis que vous étiez illustrateur principalement.
C'est ça, ouais, voilà, je suis arrivé à Die il y a bientôt 3 ans. J'avais déjà ce travail ailleurs, hein, puisque c'est un travail qui peut se téléporter, même pas en hologramme, un peu partout. Et voilà, je travaille dans un atelier à Die depuis 3 ans.
Qu'est-ce qui vous a amené à Die? Le territoire, le paysage.
Voilà, ce qui m'a amené à Die, bah, c'est la qualité de vie. Hein. C'est pas très original, mais j'habitais avant à Strasbourg, qui est une grande ville, qui est pas mal hein, dans le genre grande ville où on y fait du vélo. C'est une grande ville encore à taille humaine, mais j'avais envie d'autre chose. Et ce qui m'a attiré dans un premier temps, tout bêtement, c'est la lumière, puisque je viens de régions moins ensoleillées, ou moins ensoleillées l'hiver en tout cas. Et ensuite, effectivement, la situation géographique est assez exceptionnelle. L'environnement est assez formidable, avec les montagnes juste à côté, la Drôme, etc. Et puis moi, j'ai besoin aussi, voilà, de par mon travail, de pouvoir prendre le train et pour aller dans des salons du livre ou voir mes éditeurs à Paris. Donc, il ne fallait pas être à 2h30 d'une grande ligne de train. Et là, c'était un compromis qui nous convenait. Quoi.
Vous êtes illustrateur, vous avez aussi... vous créez des ouvrages pour enfants, principalement, mais aussi vous avez été illustrateur dans la presse, dans des grands périodiques, je dirais.
Mm-hmm. Ouais, bah alors c'est vrai que j'ai travaillé surtout à mes débuts. Là, ça fait 17 ans que je fais ce travail hein, d'être illustrateur. Mais les 5-6 premières années, je travaillais aussi pour la presse, donc pour Le Monde, Libé, pour Politis aussi un petit peu, et puis pour de la presse militante, pour des associations. Et ça, c'est des choses que je fais encore. En revanche, la presse, c'est un rythme de travail qui ne me convenait plus. Et puis les dessinateurs ont un peu disparu de la presse, à part les dessinateurs salariés. Il en reste un ou deux dans la presse nationale, mais les illustrateurs intermittents comme moi ont... Ben voilà, acheter une photo 1 euro sur Internet, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de payer un illustrateur ou un photographe, quoi. Donc c'est un métier ma carrière de dessinateur de presse s'est arrêtée avec le métier aussi, parce qu'il y en a beaucoup moins.
Vous êtes dans l'édition et principalement pour les enfants. Est-ce que ce sont des livres pédagogiques ?
Bon alors, on peut pas évacuer cette question. Moi, je dirais qu'ils le sont pas, mais en fait, chaque livre pour enfants est pédagogique, puisque il y a l'idée que c'est un être encore un peu plus en construction qu'un adulte. Donc, mais pour moi, c'est avant tout des ouvrages destinés aux enfants, mais qui sont pas là pour leur apprendre quelque chose. Un roman n'est pas là pour nous apprendre quelque chose. Il est là pour nous émerveiller, pour nous divertir, pour nous faire réagir. Et les livres pour enfants, moi, je les conçois de la même manière, quoi.
Vous êtes vous-même émerveillé quand vous créez vos pages ?
Par mes propres dessins, non. non, mes propres dessins, j'en vois tous les défauts. Par le travail de mes congénères, illustrateurs ou auteurs, oui. Je trouve que c'est un lieu, le livre illustré, où il se passe beaucoup de choses. Surtout depuis une vingtaine d'années, où aussi les adultes se mettent à acheter des livres pour enfants pour eux, enfin ce qu'on appelle des livres pour enfants, mais qui sont pour tout le monde en fait, ils ne sont pas forcément pour les enfants. Donc moi je suis émerveillé du travail des autres, le mien j'ai aucun recul dessus, je le fais, c'est tout.
Je suppose que vous dessinez depuis tout petit, non
Si, alors tout le monde dessine hein, quand il est petit, le oui. Problème c'est après, c'est que en fait, quand on arrive au collège... Il y a moins de dessins, et quand on arrive au lycée, il n'y en a plus du tout. Et donc on désapprend le dessin au fur et à mesure qu'on apprend l'écriture. Donc moi, j'ai juste continué parce que j'aimais ça, mais je n'étais pas forcément le meilleur ou le plus doué. Et c'est juste que c'était un plaisir. Et puis ce plaisir, petit à petit, a muté en travail parce qu'il fallait trouver un travail. Et c'est pareil, le fait d'écrire mes histoires, j'ai commencé à écrire parce que je dessinais, mais je n'avais pas prévu de raconter des histoires. J'étais pas très bon en français, mais c'est pas très important pour ce type de livre-là.
Quand vous dessinez enfant, je suppose que vous étiez déjà dans la narration ou alors vous étiez plus dans une, votre propre éducation picturale ?
Quand j'étais enfant, je ne me souviens pas de tout, mais je crois que j'aimais beaucoup probablement raconter des choses. Et puis surtout, quand à partir de 10 ans, on a envie de faire des dessins pour épater les copains et les copines. Donc je savais très bien recopier des choses existantes. C'était un peu la frime. Je devenais petit à petit le dessinateur de la classe. Tandis qu'avant, tous les enfants dessinent et dessinent plutôt bien avec beaucoup de spontanéité, quoi. Bon, et voilà, on perd cette spontanéité et on gagne en maîtrise. Donc c'est un équilibre à trouver, peut-être comme en musique ou...
Et quelles sont les œuvres ou les dessins qui vous ont influencé dans votre savoir-faire ?
Alors, c'est toujours compliqué ça, parce que je pense qu'on pourrait faire sur une feuille, mettre des flèches, et puis on pourrait toujours en rajouter. Hein, mais c'est vrai que quand j'étais petit, il y a des livres qui m'ont marqué, qui sont des classiques maintenant, mais les Trois Brigands de Tom Ingerer, des choses comme ça, ça m'a marqué. Et puis toute la culture BD, je lisais beaucoup plus de bandes dessinées que de livres pour enfants, puis il y en avait aussi beaucoup moins. Mais donc j'ai une culture, on va dire assez, une culture de bibliothèque municipale. Après, quand j'ai fait mes études, notamment d'histoire de l'art, etc., je me suis ouvert à beaucoup d'autres choses, et puis après à la musique, après au théâtre, au cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose qui m'influence beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à dire après. Effectivement, il y a des peintres qui me touchent, qui me plaisent, des cinéastes qui me plaisent. Mais c'est pas que le livre pour enfants, puisque sinon le risque c'est qu'on fasse juste quelque chose qui est bien mais qui ressemble beaucoup à ce que font mes autres petits copains, donc dans ce cas-là c'est moins intéressant.
Quand vous travaillez, je suppose que vous avez besoin de silence ou alors un accompagnement sonore ?
Les deux, mais j'avoue que oui, j'ai les oreilles tout le temps, j'ai tendance à avoir les oreilles tout le temps occupées, soit par mon collègue d'atelier avec qui je discute, ou par la radio. Je suis un grand consommateur de radio. C'est vraiment un travail où on peut avoir de grands moments où on peut faire autre chose et donc avoir les oreilles disponibles. Donc ma culture civique, elle s'est aussi faite par la radio, par là-bas si j'y suis des années 90-2000. Donc ça, c'est très important. Et puis la musique aussi, mais je sais pas en faire. Par contre, j'en écoute énormément. De là à dire que ça influence mon travail, j'en sais rien. Par contre, pour moi, c'est un luxe de pouvoir écouter des sons en travaillant. C'est quand même, y a beaucoup de métiers où on a besoin de concentration maximum en permanence. Moi, c'est les moments où je travaille sur mes histoires. Effectivement, je ne vais pas écouter de musique. Je vais être concentré, ça va être beaucoup plus monacal. Mais ça reste, justement, je pense que le lâcher prise, la radio, le son... La musique permet le lâcher prise en dessin peut-être, parce que on est occupé un peu par autre chose aussi. Ce qui fait que le fait de ne pas réfléchir à ce qu'on est en train de faire nous permet peut-être des libertés de trait, des libertés de dessin plus grandes.
Alors là, je suis devant un ouvrage qui s'appelle « Frigo vide ». Est-ce que c'est une autobiographie quelque part ou c'est quelque chose que couramment tout le monde peut vivre ou connaître ?
Alors « Frigo vide », c'est un livre que j'ai fait il y a 7-8 ans. Et là, c'est une histoire, effectivement. Alors toutes mes histoires, on pourrait dire que c'est des autoportraits déguisés, puisque je me rends compte, une fois que je l'ai fini, qu'il y a toujours plus ou moins de moi. Celui-là, il y a pas mal du moi d'il y a 7-8 ans. C'est-à-dire que ça parle d'une sorte d'utopie où dans un immeuble, des voisins vivent mais ne se connaissent pas. Et vit aussi au rez-de-chaussée, dans la cage d'escalier, quelqu'un un clochard qu'on appelle un SDF maintenant par pudeur. Et ces gens n'ont pas à manger et ont chacun une chose, des carottes à un endroit, des tomates, etc. Et vont faire un repas ensemble et c'est comme ça qu'ils vont apprendre à se connaître. Et il faut se rendre compte que dans tous les immeubles de tout le quartier, chacun avait un truc à manger et ça se transforme en un gigantesque repas de quartier. Là, on pense que c'est fini, et puis je vous dis pas la fin parce qu'il y a un switch comme dans les grands films américains.
Frigo vide, par exemple, est-ce que c'est issu de votre période où vous étiez illustrateur pour la presse nationale? Est-ce que c'est une continuité aussi que vous avez persisté à faire dans d'autres ouvrages?
Oui, alors je pense que la presse, en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est ça m'a appris beaucoup à travailler, en fait, et à travailler vite, c'est-à-dire d'avoir un dessin qui est lisible et efficace très rapidement, et puis surtout de ne pas le refaire 70 fois en se disant qu'il n'est jamais parfait. Et j'ai appris à ne pas faire des dessins parfaits et à passer au suivant en se disant que les gens ne sont pas là pour... le but du jeu n'est pas de faire une œuvre qui va être regardée comme un tableau de Bruegel pendant encore 300 ans. Donc ça m'a permis de développer aussi un dessin au trait, alors qu'avant, par exemple, je trouvais que je dessinais pas bien, donc j'avais tendance à faire de la peinture, des papiers découpés pour masquer la manière dont je dessinais. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Et Frigo vide, c'est vrai que c'est un livre qui a été important pour moi dans mon parcours d'auteur. Ouais.
Est-ce que vous avez continué au-delà du lycée dans les études?
Alors j'ai continué dans les études, oui, j'ai fait des études de communication, j'ai fait un BTS et ensuite je suis allé à Strasbourg, donc à l'école des arts décoratifs, où il y a une spécialisation reconnue en illustration. Et je suis resté habité là-bas, c'était pas prévu non plus, et après je suis devenu prof dans l'école où j'étais étudiant pendant 10 ans, et c'était pas prévu non plus. Et voilà, quand je suis arrivé à 10, j'ai dû quitter ce... Il fallait que je choisisse où je restais prof, parce que c'était quand même très agréable, où je venais à 10. Donc j'ai choisi 10 plutôt que ma carrière de professeur en enseignement supérieur artistique. Voilà.
Vous voulez dire que le fait d'être à 10, vous pouvez exercer principalement vos désirs de créer?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait que là, j'étais à mi-temps, en fait, dans cette école d'art, et pour moitié du temps, je continuais ma carrière d'auteur. Et j'ai aussi l'envie de redevenir que auteur et de pouvoir développer mon travail. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je connaissais plus l'intérieur de la tête de mes étudiants que ma propre tête. Et ça devenait assez compliqué. ça faisait beaucoup d'insomnie. Tandis que là, j'ai l'impression de pouvoir me réépanouir dans mon travail. Ouais.
Est-ce que vous avez toujours un regard un peu sur la société d'aujourd'hui, et puis en particulièrement avec les campagnes électorales qui sont en cours?
Alors j'ai un regard, oui, comme tout le monde, j'ai un avis. Alors après, le problème c'est de le donner maintenant, et alors que là on enregistre l'émission avant le premier tour et qu'elle sera diffusée après le second, donc non, c'est pas ça qui risque de se passer.
Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous dire, mais okay. Ça peut être, elle peut être diffusée avant le premier tour même, hein, c'est possible. Okay.
Non, mais oui, bien sûr que j'ai un avis. Alors je ne sais pas si c'est intéressant que moi, Gaëtan Doremus, illustrateur, je donne mon avis sur...
Je ne vous donne pas forcément une préférence ou de nous citer une préférence, mais dans le contexte tel quel, et puis avec votre regard aussi d'illustrateur de presse, comment vous ressentez cette campagne?
Ben, cette campagne, elle est un peu folle. Ça, c'est pas très original de le dire. Ce qui est intéressant, c'est de se demander si quelque chose de bon ou de très très mauvais va pouvoir en sortir. On sent que il y a une grande fragilité aussi intellectuelle, c'est-à-dire que il y a beaucoup de candidats qui ne proposent que de la posture et où il n'y a pas grand-chose derrière. Moi, ce qui m'intéresse dans une campagne, certes, c'est qui va gagner et qu'est-ce qu'on va subir pendant 5 ans, mais c'est aussi de voir comment de nouvelles idées ou des idées qui étaient anciennes mais qui n'ont jamais été appliquées peuvent émerger. Et en ce sens, je pense qu'il y a clairement un camp qui propose des choses nouvelles et nécessaires, et le reste du camp qui propose ou le repli rabougri ou la perpétuation de recettes qui nous mènent au désastre depuis 25-30 ans, quoi. Donc moi, je suis clairement dans le camp de ceux qui se disent qu'il faut essayer, il est temps d'essayer autre chose. Dans nos livres, voilà, ça nous semble normal de donner à l'enfant des choses qu'il a pas déjà vues. Et je pense que dans la vie, c'est quand même ça qui est un peu excitant, c'est d'essayer toujours de nouvelles choses parce que vivre, c'est ça, tout simplement. En politique, je vois pas pourquoi on se l'autorise pas depuis que je suis né quasiment, quoi. J'ai l'impression que c'est la même chose. Il y a juste l'étiquette qui change sur le yaourt, quoi.
Est-ce que dans vos ouvrages, on pourrait voir comment vous instruisez un peu les enfants par le biais d'une histoire et quel regard vous pensez qu'ils puissent avoir à la fin de vos ouvrages.
La question du regard, elle est intéressante. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais l'étiquette, et peut-être que je l'ai encore, hein, de l'illustrateur pour enfants engagé. Alors, je ne suis pas le seul à l'avoir. Hein. Mais voilà, c'est une industrie, hein, le livre pour enfants. C'est une industrie éditoriale. Et donc, on est aussi des produits, qu'on le veuille ou non. Et on a besoin de me caser quelque part. Donc, on est engagé sur mon front, ou rigolo, ou voilà. Alors que moi, je pense que j'essaye plutôt d'interroger le lecteur quand je fais des livres dits sérieux, ou même si je pense qu'on peut rigoler et être sérieux en même temps. J'essaye plutôt d'interroger le regard plutôt que de lui asséner une pensée d'adulte alors que c'est un enfant et que j'ai pas envie de faire un livre qui est un tract pour enfants, puisqu'un enfant n'est pas quelqu'un qui est en âge de comprendre un tract. Il est en âge de comprendre des choses nuancées comme des livres avec des histoires où on réfléchit, on se dit « Ah, le personnage fait ci, fait ça ». Il pense ci, il pense ça, moi qu'est-ce que j'en pense? Ils ne mettront pas forcément les mêmes mots que nous, ils n'en mettront pas du tout dessus, mais moi c'est plutôt ça que je vais aller chercher. Je ne vais pas aller lui dire que ça c'est bien et que ça c'est mal, même si moi je le pense. Ce qui m'intéresse, c'est que lui se mette à réfléchir. C'est comme ça. Oui, voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Bébé crocodile, quel message voulez-vous faire passer, par exemple, aux enfants?
Alors, le bébé croco, c'est la rencontre entre un enfant, un petit chevalier, et un vieux pépé crocodile tout bigleux qui le confond avec un bébé crocodile. Et il est persuadé qu'il a une tâche à accomplir, c'est de l'élever. Et donc, pendant toute l'histoire, pendant une grosse moitié de l'histoire, le vieux crocodile veut l'éduquer et le force à agir comme un bébé crocodile, tandis que l'enfant a juste peur de se faire bouffer. Et ce qui m'intéresse, bah voilà, c'est ces rapports contrariés entre adultes et enfants. C'est cette question de la filiation, cette question de comment on fait pour cohabiter avec des gens qui sont différents de nous, puisque à la moitié du livre, l'identité du petit enfant est révélée au vieux crocodile et il continue, bah voilà, il pourrait le manger, mais il décide d'accepter de ne pas le bouffer parce qu'il a trouvé un compagnon et c'est quelqu'un de seul. Donc il y a aussi ce truc entre générations, ce lien qu'on tisse avec souvent la génération, pas de nos parents, mais celle d'au-dessus. Voilà, ça c'était quelque chose qui m'intéressait. Comment on fait société quand on est différent? Alors là, la société, elle est à deux personnages. Ça se passe dans la forêt. Et puis c'est traité sur le mode humoristique. Mais je ne me dis pas tout ça en fait quand je fais mes livres. J'ai des personnages, je les fais vivre. Et quand l'histoire est à peu près bouclée, je me dis « Ah mais oui, ça parle de ça ». Et puis parfois même les critiques me disent « Mais non, ça parle pas de ça, ça parle de ci ». Moi je m'en rends pas compte et je pense qu'il vaut mieux pas. Sinon je crois que je saurais plus faire des livres. Si on me disait « Fais un livre sur la différence » ou « Fais un livre sur je sais pas quoi, le racisme » ou à part dire que le racisme c'est pas bien, je saurais pas quoi faire. Tandis que si ça transparaît dans une histoire, je pense que ça rend les choses plus vivantes aussi.
Combien d'ouvrages avez-vous fait paraître?
Alors, je dois être l'auteur d'une, ou co-auteur, puisque parfois je fais que les images, d'une cinquantaine de livres. Voilà, un auteur-illustrateur en moyenne, moi j'en fais 2-3 par an, quoi. C'est déjà beaucoup. Voilà, il faut savoir que le livre pour enfants, on est le pays au monde où il y a le plus de créations dans le livre pour enfants, où il y a le plus de médiathèques. Donc le problème, c'est pas de faire des livres, le problème, c'est d'arriver à ce que les livres soient distribués en librairie tellement il y en a et conservés dans les librairies. Le problème, c'est qu'ils aient une durée de vie un peu plus longue que 3 semaines, quoi. Après, heureusement, il y a ces bibliothèques, voilà, qui font que les livres vivent pas que dans le secteur marchand, quoi.
Bah, des œuvres comme Les Trois Brigands, sont des classiques.
Oui, oui.
Et est-ce que vraiment un ouvrage a une durée de vie de 3 semaines, comme vous dites?
Bah, les ouvrages qui sortent là, oui, c'est la durée de vie moyenne d'un livre en librairie. Un livre pour enfants, la bande dessinée, je pense que c'est même encore plus court. C'est-à-dire que si le livre ne marche pas, ben, au bout de 3 semaines, le livre est remis dans un carton et renvoyé pour le stock. Donc effectivement, c'est... Voilà, après moi, ça fait 17 ans que je fais ce métier, je suis un petit peu reconnu, donc ça permet à mes livres d'être plus remarqués. Maintenant, il y a aussi des sites de critiques en ligne qui font que aussi les gens peuvent repérer un livre même s'il est plus disponible physiquement dans une librairie et aller le commander. Mais c'est vrai que voilà, c'est la rançon du succès de cette littérature-là qui a complètement explosé. Hein. Maintenant, il y a des... Moi, je fais de l'album, mais maintenant, il y a des romans pour des enfants, des romans policiers. Il y a énormément de variété et de qualité. Aussi, beaucoup de choses pas bonnes. Mais tout ça, ça s'appelle livre et on est en concurrence les uns les autres, qu'on le veuille ou non, quoi.
Ça implique une discipline de travail pour créer autant d'ouvrages dans le quotidien et puis aussi un apprentissage sans cesse de ce qui nous entoure.
Ouais, alors ça implique du travail, ça c'est pas très original en fait, hein, tout le monde. Ça implique de l'activité, quoi. Moi, je fais pas ça en dilettante le dimanche après-midi quand je m'ennuie. C'est mon vrai travail. Je vais tous les jours de la semaine à mon atelier pour travailler. En revanche, voilà, ça implique aussi, effectivement, si on était payé beaucoup plus pour nos livres parce qu'il y avait moins de concurrence, donc les livres se vendraient plus, donc nous, on toucherait un peu plus de sous, peut-être que je pourrais passer plus de temps sur mes livres. Là, il y a certains livres où je passe... Le bébé croco dont on parle, j'y ai passé plus de 6 mois. Faut pas rapporter ça au taux horaire, sinon c'est une catastrophe. On est largement en dessous du SMIC. Après, voilà, c'est des livres qui sont remarqués. On fait des expositions, on est invité, des dessins, on est invité dans des écoles pour faire des ateliers, parler avec les marmots et on est aussi payé pour ça. Donc ça enclenche d'autres choses. Mais c'est pas un métier. Si des enfants écoutent et veulent faire ce métier-là pour être riche, faut surtout pas faire ça. S'ils veulent s'amuser, s'ils veulent avoir un métier gratifiant, je pense que c'est ça l'est.
Par quel cheminement vous vous êtes retrouvé dans ces publications ?
C'est très bête, là c'était aussi pour des histoires de sous, c'est-à-dire que c'était un endroit où on pouvait gagner sa vie en dessinant. C'était très 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 bête. Et puis j'ai appris en faisant, mon premier dessin de presse c'était probablement pas très très bon. Mon deuxième un peu moins mauvais, et puis petit à petit, j'ai appris mon métier en ratant successivement mes premiers dessins. Et puis voilà, c'était quelque chose qui me plaisait, de travailler pour la presse, c'était un peu le rêve d'avoir mon premier dessin dans le monde, je touchais plus terre. Après j'ai compris qu'en fait il y en avait tous les jours des dessins dans le monde, et que le lendemain il y en avait déjà un autre, et que c'était vite oublié, que c'était pas si extraordinaire que ça. Mais c'était... aussi une période où le dessin était encore un mode d'expression très utilisé dans les journaux. Où maintenant, il y a des, voilà, il y a Charlie, il y a il reste encore des revues où le dessin prime. Mais voilà, il y a 20 ans, il y avait vraiment du dessin partout. Maintenant, c'est plus le cas.
La photographie numérique, par exemple, est-ce qu'elle en est la cause de ce revirement?
Ouais, alors je pense que c'est la photographie numérique, c'est juste un outil qui rentre en concurrence avec les auteurs d'images. Mais c'est surtout la crise de la presse tout court. On supprime les emplois et on supprime aussi les collaborateurs qui ne sont pas salariés. C'est quand même beaucoup plus simple de juste pas les appeler pour travailler. Donc c'est juste qu'on est à un bout de la chaîne, quoi. Et on supprime d'abord les bouts de la chaîne avant d'attaquer dans le vif. Tellement d'autres explications, je ne suis pas très amer puisque c'est aussi si les journaux s'en sortent pas, c'est aussi qu'il y a un problème de modèle économique et de contenu, c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de journaux qui racontent un peu tous la même chose et peut-être que nos dessins racontaient un peu tous la même chose aussi, donc moi je ne suis pas triste de ça, c'est juste dommage parce que je pense qu'un bon dessin peut raconter autant qu'un bon article et j'espère que c'est un métier qui reviendra en force, quoi.
Je crois comprendre que vous auriez peut-être une séance de dédicace prochainement.
Voilà, alors je vais venir dédicacer mes bouquins, les derniers, hein, pas tous, sinon, à la librairie Mosaïque le samedi, que je me souviens bien, je crois que c'est le 20 mai au matin.
C'est pour ça que tout à l'heure vous disiez que l'émission passerait après le deuxième tour, mais on pourrait voir, je ne sais pas exactement la date du deuxième tour.
Je pense que c'est le... 8 mai.
Le 8 mai, oui. Le 23 avril et 8 mai, donc ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est à la librairie Mosaïque, vous aurez vos ouvrages, mais vous aurez aussi la possibilité de discuter avec un public.
C'est ça qui m'intéresse, c'est que là, je suis un petit peu incognito quand même, je suis pas une star de la télé, hein. Tout le monde est incognito, mais... c'est aussi que ça me fait plaisir d'aller dédicacer mon livre à l'endroit où j'habite, et puis... pour voilà, les, comme ça les copains, les enfants des copains pourront venir me voir dans travailler un tout petit peu, et puis on pourra échanger sur d'autres choses que le devenir de la maternité, de la gare, les et toutes ces questions qui nous agitent en tant que citoyens d'Iwa. Voilà, ça serait une petite facette de mon travail que les gens que je connais ne voient pas forcément.
Est-ce que vous pensez peut-être éditer quelque chose sur le Diwa?
Alors, éditer quelque chose, le problème c'est de... Comme toujours, on peut faire des dessins, mais après il faut voir à quoi ils servent et comment les rendre publics. Non, moi j'ai, par exemple là je fais les affiches pour la bicyclette, ça c'est quelque chose qui... Donc la manifestation autour du vélo qui a lieu tous les ans au mois de septembre. Parce que je participe un petit peu au collectif vélo. Ça, c'est des choses qui me concernent, m'intéressent. Et je vois plutôt ma participation en tant qu'illustrateur comme ça, c'est-à-dire faire des dessins pour des causes qui m'animent. Après, faire une publication sur Di, l'intérêt, ça serait que ça intéresse les Diwa et le, soyons ambitieux, le reste du monde. Si ça intéresse que les Diwa... c'est déjà pas mal, mais c'est mieux si je peux faire partager un peu de ce qui se passe ici de manière plus large, quoi. Donc là, j'ai pas trouvé, cherché encore, mais peut-être que ça viendra, ouais.
Est-ce que vous pensez que le Diwa a une certaine chance de pouvoir justement interagir sur le quotidien, sur son quotidien?
C'est vrai qu'il y a une échelle aussi qui permet ça, c'est-à-dire que c'est comme un petit quartier d'une grande ville. On peut assez facilement croiser, si on a envie de parler à quelqu'un, on peut assez facilement le trouver dans la rue, quoi. Et ça, je pense que ça peut être une force, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ah oui, la personne qui pense ci, qui pense ça, qui fait ci, qui fait ça, si je suis d'accord ou pas d'accord, elle est toujours accessible, je peux aller échanger avec elle. Et ça, je pense que c'est précieux. C'est ce qu'on perd dans les grandes villes. On gagne plein d'autres choses dans les grandes villes, mais ça, on a tendance à le perdre. Ne serait-ce que tout bêtement parce qu'il y a trop de circulation, donc on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas dans les rues. Là, dans les rues, il y a toujours des gens en train de discuter. Donc, effectivement, c'est moins le cas en été quand la ville quadruple sa population, mais le reste de l'année, pour moi, c'est une. Oui, c'est ce que je suis venu chercher aussi en venant habiter à Di, quoi.
Votre atelier est à l'écart de votre lieu de vie, je suppose. Est-ce que parfois vous ouvrez votre atelier au public?
Alors on ne l'a pas fait. C'est vrai que ouais, mon atelier il est hors de chez moi. J'ai besoin de ce petit trajet pour pouvoir passer d'une chose à une autre. Ça m'est précieux. Non, j'ai pas. Voilà, je me suis dit que l'atelier déjà il est pas très grand, donc pas très praticable pour des visites publiques. Et que si c'est pour que les gens voient la couleur des murs, bon, et puis je sais pas si c'est passionnant. Bon, j'ai un ordinateur. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire une exposition de dessin, je pense, et puis de mettre en scène un peu la manière dont je travaille. Ça, on l'a déjà évoqué avec la bibliothèque municipale, donc je pense que ça se fera un jour. Mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur lieu pour présenter la manière dont je travaille, en fait. Je pense qu'une salle d'exposition ou même une exposition hors les murs, dans la rue, ça, c'est peut-être plus intéressant. Mais oui, non, je suis pas du tout contre l'idée des ateliers ouverts. Je pense que moi-même, parfois, j'ai déjà pratiqué ces manifestations, mais dans le cas présent, je pense pas que ce soit le meilleur endroit.
Vous disiez que dans votre atelier, il y a un ordinateur. C'est que vous travaillez uniquement en informatique ou alors vous utilisez quand même la vieille méthode du papier et du crayon?
Alors, oui, j'utilise les deux, en fait. Hein. Donc, je suis revenu à quelque chose de très basique, c'est-à-dire le crayon. Je dessine mes livres au crayon gris, même. Donc, là, vraiment, le crayon qu'on peut trouver absolument partout, sur du papier machine de base. Et en revanche, je vais travailler les couleurs, et je vais scanner mes dessins, je vais travailler les couleurs avec un outil numérique. Mais avant tout, pour moi, je suis revenu à quelque chose de très simple, c'est le fait de dessiner. On a une idée, on peut la dessiner. Puis, on peut aussi l'écrire, et j'aime bien l'idée que chacun pourrait faire un livre, il suffit d'avoir un crayon en fait, et un crayon et des feuilles. Parfois je travaille encore avec de la peinture, etc., mais j'éprouve moins ce besoin de faire des choses qui ressemblent à des œuvres qu'on pourrait accrocher au mur. Pour moi l'original c'est le livre, c'est plus mon petit dessin de départ, quoi.
J'ai vu récemment là, un article de presse qui indiquait la vente d'un dessin d'Hergé à 750 000 euros, qui était issu de l'époque de Tintin en Amérique. Est-ce que, oui, le dessin, dans le temps, finit en œuvre d'art?
Oui, alors moi, je les vends un petit peu moins cher. Je suis un petit peu moins connu.
Hergé aussi, on n'est plus là pour...
non, mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que juste ça montre que petit à petit, il y a une reconnaissance du dessin comme œuvre qui se fait. Le cinéma avait mis du temps, la bande dessinée est en train d'y arriver. Le livre illustré, on a encore... bon, voilà, je pense d'ici 30-35 ans, on sera au niveau de la BD, quoi.
Vous n'avez jamais été attiré par le film d'animation ?
Alors si, c'est des choses qui m'intéressent. Mais plus je m'y intéresse, plus je me rends compte que c'est un autre métier, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des tentations, hein. Et puis, dans la région, il y a un studio d'animation très reconnu. Je connais quelques personnes qui travaillent par ailleurs. Donc, peut-être qu'un jour, ça se fera de travailler, par exemple, avec donc ce studio Folimage qui est à Valence. Mais voilà, eux savent peut-être pas bien faire des livres pour enfants, et moi je sais pas bien faire des dessins animés, donc ça, je pense qu'il faut plutôt réfléchir à une collaboration qu'à l'idée que je pique leur boulot, quoi, puisque je le ferai pas bien.
J'imagine bien, oui, chacun a ses compétences dans son domaine. Donc je rappelle quand même cette séance de dédicace le 20 mai à la librairie Mosaïque, à quelle heure?
Je pense qu'il est 10h, 10h, 10h30, c'est la matinée, quoi, hein, pendant le marché. Voilà, on s'est dit que c'était... D'allier culture et nourriture.
Et est-ce qu'on peut aussi voir votre œuvre sur Internet ?
Alors sur Internet, on peut trouver... j'ai un site Internet qui recense mes bouquins. Et puis j'ai sur Instagram, je mets des images de projets qui ne sont pas édités. Mais après, moi je conseille aux gens, s'ils veulent acheter des livres, de les acheter dans des vraies librairies qui ont vraiment... qui sont vraiment des lieux de conseil et qui sont irremplaçables, et de ne pas les acheter sur Amazon. Je pense que Internet, c'est très bien pour découvrir, mais un livre sur écran, ce n'est pas pareil qu'un livre en papier.
Vous êtes plutôt militant, alors, aussi. Hein. Est-ce que ça, c'est, vous croyez qu'il faut l'être pour vivre dans le Diwa ?
Non, il ne faut pas l'être. Moi, j'essaie juste... voilà, c'est des questions après tout bêtement éthiques. Je sais que le numérique tue des choses, il est très pratique pour certaines autres, donc il faut faire la part des choses. Je ne suis pas anti-ordinateur, j'utilise l'ordinateur pour travailler. Je ne suis pas anti-réseaux sociaux, puisque depuis peu, j'essaye de comprendre comment ça marche et de voir ce que ça peut m'apporter. Mais pour le coup, je pense que l'objet livre, il est assez irremplaçable. Par contre, Internet, c'est très bien pour échanger des informations courtes, etc. Mais moi, par exemple, je n'arrive pas à lire un article de plus de 15 lignes sur Internet, donc ça m'aide pas à réfléchir, ça m'aide à me guider, mais pas plus.
Pour terminer, s'il y a musique lors de vos séances de création, laquelle serait-elle ?
Alors je pense que je mettrais, s'il fallait mettre de la musique, je pense que je mettrais ou de la musique éthiopienne, après c'est très très large, musique éthiopienne, il faudrait que je détaille, et j'arrive pas à prononcer les noms des artistes éthiopiens que j'aime. Ou alors je mettrai la bande originale d'un film d'Aki Korismaki, qui sont à la fois tristes, joyeuses, et moi j'aime quand ces sentiments-là sont mêlés, et ouais, c'est ce que vous disiez, qui sont à la fois les films de Korismaki, en fait voilà, c'est des choses qui me plaisent, peut-être parce que j'en ai vu un récemment, mais où il y a un mélange de joie, de nostalgie, d'engagement avec plein de guillemets, et voilà, c'est quelque chose qui me touche.
Sans artifice même.
Sans artifice. L'émotion brute, ouais, voilà.
Gaëtan Doremus, merci d'être venu nous parler.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Enemmän lain käsky se on.
rakkaani vei ja takaisin koskaan saavu hei. Kun tuulet nuo kerran mun ylitsein käy, minua täällä enää ei näy. Nuoruus on pois, katkera en, olla nyt vois onnellinen. Sain ympärilläin kumppanin aina, ystävät näin. Haaveemme nuo haalistuneet silmiini tuo, nyt kyneleet kohtalon tuulet kaiken tuon vei. Ja haaveemme koskaan täyttyneet ei, kun tuulet nuo kerran mun ylitsein käy, minua täällä ei.